France Musique.
Alors moi, il met pas.
Mazette, quelle musique? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
Bonjour à toutes et à tous et excellente nouvelle année musicale. Démarrons l'année en fanfare, non par une valse viennoise, certains redoutent peut-être l'indigestion, mais tout de même par une danse à trois temps, une danse populaire, le Mazurek pour violon solo et orchestre d'Antonín Dvořák, composé la même année que le concerto pour violon, créé le jour de Noël 1879, musique fougueuse, bondissante, enivrante, d'allure rhapsodique et bohémienne, qui se joue de deux thèmes, l'un très marqué rythmiquement, l'autre très lyrique, à l'archer Anne-Sophie Mutter, à la baguette Manfred Honeck et la Philharmonie de Berlin. L'année commence bien.
Thank you.
premier dimanche du mois et donc, comme nous en avons pris l'habitude, un thème orienté développement personnel. Démarrons l'année en fanfare, en prenant toutes les meilleures résolutions musicales et en suivant les conseils et injonctions piochés dans les précieux horoscopes du nouvel an et les magazines qui se préoccupent, à juste titre bien sûr, de notre développement personnel. La production a préparé un programme, disons plutôt un bouquet d'œuvres toutes enthousiasmantes et même magnifiques, qui sans être vraiment des raretés ou des découvertes ne sont pas les plus fréquentes, pas de grands tubes donc. Notre promenade musicale sera jalonnée, je devrais dire notre bouquet sera parsemé, ça et là, de pimpantes fanfares et d'ailleurs nous tâcherons aujourd'hui encore d'être suffisamment en avance pour ne pas rater la correspondance de 15h21, François Sureau nous y rejoindra en fanfare. Première fanfare, celle qui ouvre le premier grand cycle de mélodies avec orchestre de Benjamin Britten sur des poèmes de Rimbaud, Les Illuminations. J'ai seul la clé de cette parade sauvage, chante Heather Harper. Parade sauvage, s'agirait-il de notre promenade musicale d'aujourd'hui ? On nous recommande de pas nous laisser aller. D'abord, ne pas se laisser submerger par le doute ou le désespoir. C'est ce que chante Glauce au début de l'opéra Médée de Cherubini, un joyau, souvent malheureusement confié, car c'est un petit rôle, à des voix de petit rôle, ce qui est bien dommage, car c'est un air magnifique et saisissant lorsqu'on y entend Lucia Pop ou Renata Scotto, ou comme ici, Pilar Lorengar. Viens amour, viens à moi, mon cœur espère en toi seul, quand tu descends en moi, tout doute s'éloigne de mon cœur.
Thank you.
se laisser submerger par le doute et en second lieu ne pas se laisser priver d'énergie positive comme on dit dans les magazines. Un extrait de la 5e symphonie de Carl Nielsen peut être le chef-d'œuvre orchestral de celui qui fut et demeure sans doute le plus grand compositeur danois. Nous écoutons l'allegro final. De la gangue d'une masse orchestrale très dense se dégage avec de belles fanfares, avec une grande puissance, avec beaucoup d'énergie positive, donc un solide thème en mi bémol majeur comme une force inextinguible. Du bon côté de la force, évidemment.
Thank you.
pas se laisser submerger par le doute, ne pas se laisser priver d'énergie positive, enfin, ne pas se laisser embarquer dans d'impitoyables aventures. Écoutons le duo d'Alexis et de Palémon dans Le jugement de Midas d'André-Ernest Modeste Grétry. John Elway, c'est Alexis, ouvrier agricole, on me suggère de préciser qu'il s'agit en fait d'Apollon. L'excellent et très regretté Jules Bastin est Palémon, exploitant agricole, vieillissant, marié et avec enfant. Et la direction est assurée par Gustave Léonhardt, pas moins que cela. Ce doit être donc très beau, peut-être un peu sérieux. Ne nous laissons pas embarquer dans n'importe quelles aventures, surtout si elles ne sont pas politiquement correctes, et sans doute pas conformes aux législations en vigueur, notamment le Code du travail. À nos oreilles.
Grâce pour
et bien l'étage,
quatre repas,
c'est trop pour moi.
Et moyennant ces avantages, et moyennant ces avantages, voici, voici, voici tout ce que tu feras, c'est peu de choses. Au point du jour, il faut être levé.
Jamais sans moi, le jour ne s'est levé.
Tout à tour avec courage, vaquer au labourage, au jardinage.
Voilà bien de l'ouvrage, je ne suis point au travail élevé.
Planter, semer et moissonner, battre le blé, faucher, faner.
C'est trop d'ouvrage,
tu t'y feras.
C'est trop d'ouvrage,
tu t'y feras.
C'est trop d'ouvrage, je ne peux pas.
C'est peu de choses et tu verras que ce n'est pas. Je ne pouvais pas te couper, je ne pouvais pas te couper, je ne pouvais pas te couper. Puis ma femme est une diablesse qui volontiers prend de l'humeur. Savoir avec adresse la disposer en ta faveur.
C'est trop d'ouvrage,
tu feras.
Et puis sans cesse, semencer, déboissonner, battre le blé, faucher, vanner.
Tu t'y feras.
Je ne peux pas, je ne peux pas.
Quand viendront les jours de fête, tu pourras nous répéter quelques chansonnettes.
Pour la force de chanter, quand tout le long de la semaine, on a souffert autant de peine, quand on a force de chanter.
Et tu feras danser mes filles.
Et toi, vous avez tant de filles.
Oui, j'en ai deux et bien gentilles.
Ce sont sans doute
des enfants de 15 à 16 ans,
de filles gentilles et de 15 à 16 ans.
Le labourage,
le
jardinage,
ensemencer, moissonner
et moissonner.
Allons, allons,
allons, allons, allons, c'est un courage, on travaille.
Deuxième fanfare pour aujourd'hui, une basse de trompette tirée du livre d'orgue de Pierre Dumage et jouée par le Texan George C. Baker sur un des plus beaux instruments de France. Les orgues construites entre 1734 et 1739 par Louis-Alexandre Clicquot, maître de la grande facture d'orgue classique du XVIIIe siècle. Un instrument qui est un exceptionnel témoin de cette glorieuse facture française. Ce sont les grandes orgues de Saint-Jacques de Houdan. Nouvelle injonction tirée d'un horoscope visionnaire, agir avec astuce sans tomber dans l'hypocrisie. Tiens donc. C'est ce qui guide Léonore, alias Fidelio, dans l'opéra de Beethoven. Toute la difficulté de cet agir avec astuce sans tomber dans l'hypocrisie apparaît dans le second duo avec Marceline, la jeune Marceline, fille du gardien de prison Rocco, tout est prise du jeune Fidelio, qui est en fait Léonore, travestie en homme, Léonore épouse de Florestan, qu'elle veut libérer de cette prison. Conversation en musique sur la fidélité et la confiance, avec deux niveaux de compréhension. Celui de la différence entre Marceline, naïve et innocente, dans l'attente des jouissances de l'amour conjugal, et Léonore, qui a déjà expérimenté ce que l'amour peut signifier de souffrance et de combat. Et deuxième niveau, celui de la différence entre l'absolue confiance de Marceline dans Fidelio, dont elle ignore qu'elle est Léonore, et l'interrogation de Léonore sur les limites de cette tromperie, de son subterfuge à l'égard de Marceline. Agir avec habileté, mais jusqu'où ? Nous écoutons cette musique merveilleuse, comme le mouvement d'un quadruple concerto pour deux voix de femme et deux instruments, violon et violoncelle, un joyau un peu oublié, parce que, pour des raisons d'efficacité dramaturgique, ou simplement de longueur, il ne figure pas dans la version définitive de Fidelio, l'unique opéra de Beethoven. Hélène Donat et Marceline, et Edda Moser, Fidelio, Léonore.
Yeah.
Agir avec astuce, sans tomber dans l'hypocrisie donc, et à présent, agir avec souplesse, mais fermeté et détermination. Pour cette incontestable injonction, la brève ritournelle introduite par Jean-Philippe Rameau dans Hippolyte et Aricie lors de sa reprise en 1742. C'est un admirable fugato instrumental à la française qui, d'entrée en entrée de chacune des voix, et pour commencer un basson qui ne s'en laisse pas compter, progresse de manière irrésistible, avec souplesse, mais fermeté et détermination. Troisième fanfare de cette promenade musicale, pour débuter l'année en fanfare, une version instrumentale d'une chanson de Guillaume Dufay, chanson qui était très célèbre au XVe siècle et tout à fait de circonstance. Ce jour de l'an, voudrais-je joie mener, chanter, danser et être d'humeur joyeuse pour maintenir la coutume jolie. Trois chalémis, des ancêtres du hautbois et des percussions, une pimpante fanfare en rondeau. On nous conseille aussi de prendre le temps. Et en premier lieu, prendre le temps de profiter du jour et de l'heure. Ad ogni evento, à tout vent, tourne comme la feuille, danse ainsi au son de la danse, et ne veuille pas d'autrui plus qu'autrui ne veuille. L'arbre produit le fruit, cueille-le. Nous allons écouter, sur ce thème du carpe diem, profite du jour et de l'heure, une saisissante ballade d'Antonio Zaccara da Teramo, deux générations avant Guillaume Dufay. Zaccara, compositeur italien, maître du style nouveau par rapport à celui de Guillaume de Machaut et de ses successeurs. Pour résister à l'invasion de la poésie lyrique venant de France, en langue d'oc ou en langue d'oïle, les ballades chantées de ce style nouveau le sont sur des poèmes en langue vulgaire italienne. Et ce nouveau style est créé au tournant du Trecento et du Quattrocento, exactement entre 1380 et environ 1420, notamment à la cour des Visconti à Pavie. Très vite, on appelle cette nouvelle façon de composer Ars Subtilior, plus subtil, parce qu'il rivalise de raffinement, de virtuosité harmonique et rythmique, particulièrement dans le recours à la syncope, on va l'entendre, et avec un emboîtement de grande précision entre les différentes voix instrumentales et vocales. Nous écoutons donc cette très poétique, subtile, dansante ballade Ad ogni evento de Maître Zaccara, extrait d'un album de l'ensemble Malapunica, je crois un des plus beaux enregistrements de musique de la fin du Moyen-Âge. À tous les vents, profitons du jour et de l'heure. Thank you. prendre le temps de profiter du jour, mais aussi, nous dit-on, prendre le temps de l'intériorité. Comme nous y invite, par exemple, cette sarabande de Louis Couperin. Révélée, nous nous en souvenons, par le grand Jacques Champion de Chambonnière, Louis Couperin fut non seulement l'oncle du génial François Couperin, mais aussi un magnifique compositeur d'œuvres pour clavecin et pour orgue au milieu du XVIIe siècle parisien. Pas de virtuosité débridée, si ce n'est, on l'entendra dès les premières mesures, dans l'ornementation improvisée par l'interprète, ici le claveciniste Skip Sempé. Beaucoup de finesse, des subtilités, les inégalités rythmiques, les notes de passage, les effets de résonance qui éclairent les audaces harmoniques, une agogique en rien solennelle ni sentimentale, mais magnifiquement tenue en prenant son temps, un art tout d'éloquence intérieure. Mazette, quelle musique! Quatrième fanfare maintenant, extraite des Six Jubilees, composée pour piano puis orchestrée par Magnus Lindberg il y a juste 20 ans pour l'ensemble intercontemporain. Pimpant, mais aussi très raffiné, une très brève illustration du génie de ce compositeur finlandais contemporain. Pourquoi, comment la nation finlandaise, qui ne compte que 5 millions d'habitants, génère autant de personnalités musicales, compositrices, compositeurs, chefs d'orchestre, chanteurs, etc., qui occupent le premier rang de la scène musicale européenne et mondiale? C'est encore pour moi un mystère, mais je suis certain que Christian Merlin a la réponse à cette question. Nous lui demanderons. Magnus Lindberg, Jubilé 3. Thank you. après cette belle fanfare de Magnus Lindberg, une nouvelle salve musicale de conseils, injonctions, bonnes résolutions pour démarrer l'année en fanfare. Savoir et d'abord savoir faire face. Un air d'Athénaïde de Vivaldi, opéra composé pour être créé à Florence au cours des festivités du passage de l'an 1728 à l'an 1729. Montesquieu y était d'ailleurs et il écrivit qu'il en était ravi. Athénaïde fut sans doute reprise à Vienne et à Dresde, depuis son bras dans l'obscurité des rayons des bibliothèques. Le livret méprise absolument sans vergogne et l'histoire et la vraisemblance. Il se contente d'être complexe, obscur, byzantin, pour conter les aventures d'Athénaïde, impératrice d'Orient au début du 5e siècle. Comme on le sait, si simplicité rimait avec efficacité, il serait simple de faire compliqué et inversement et même réciproquement, si vous me suivez. Toujours est-il que l'on peut absolument ignorer le texte, chanter, la musique suffit, on l'entend parfaitement. Athénaïde, qui se trouve dans une situation objectivement inextricable, sait manifestement faire face avec un quant à soi impressionnant. C'est Sandrine Piau qui est Athénaïde, c'est très beau, il faut savoir faire face.
Yeah.
savoir faire face et à présent savoir ce que l'on fait de son cœur. Eh oui, mais madame, écoutez-moi donc, vous perdez quelque chose. C'est mon cœur, pas grand-chose, ramassez-le donc. Je l'ai donné, je l'ai repris. Il fut là-bas dans les tranchées, il est ici, j'en ris, des belles amours que la mort a fauchées. Extrait des Attentives, un poème de Guillaume Apollinaire écrit en mai 1915, non loin du front, pour Louise de Coligny-Châtillon, Lou. Au printemps 1969, Dimitri Shostakovitch compose sa 14e et penultième symphonie, dont le 6e mouvement met en musique ce poème d'Apollinaire. Nous l'écoutons, Julia Varadi, Dietrich Fischer-Dieskau et l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam sont dirigés par Bernard Haitink.
Madame, écoutez-moi donc, vous perdez quelque chose.
Ah, c'est mon cœur, c'est mon cœur, pas grand-chose. Ramassez-le donc. Je l'ai donné, je l'ai prêté.
Savoir faire face, savoir ce que l'on fait de son cœur et enfin savoir où l'on place son désir et son plaisir. Pour Heinrich Schütz, dans la Saxe littéralement ravagée par la guerre de 30 ans et la peste, c'est dans le Seigneur son Dieu qu'il faut placer son bonheur et aussi dans la composition et l'interprétation de musique sacrée. L'heure n'est évidemment pas à la mobilisation de grands ensembles instrumentaux et vocaux et dans les années 1635-1640, Schütz compose des symphonies sacrées et des petits concerts spirituels pour 1, 2, 3, exceptionnellement 4 chanteurs et pour une basse continue. Mais malgré ses très maigres effectifs, ses recueils sont un des sommets de la création de Schütz. Il y allie tout l'art italien de la représentation en musique des affects, modulation soudaine, dissonance, chromatisme, effet d'écho, etc., et la recherche d'une rhétorique musicale propre à la langue allemande. Ainsi en est-il du petit concert spirituel « Habe deine Lust in dem Ehren » sur des fragments du psaume 37 « Place ta joie, ton plaisir dans le Seigneur ». Nous écoutons le très jeune Sébastien Hennig, René Jacobs et le concerto vocale.
Habe deine Lust an dem Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht.
Befiehl dem Herrn deine Finger und hoffe auf ihn. Befiehl dem Herrn deine Finger und hoffe auf ihn.
Er wird wohl machen,
le coup de 3 heures. L'heure des badineries en fanfare. Non, ce n'est pas exactement le générique de Mazette, quelle musique. Il ne s'agit pas de jouer d'ailleurs au jeu de l'émission dans l'émission, mais de répondre à une question souvent posée sur l'origine de ce générique. De quelle musique s'agit-il ? 3 éléments dans ce générique. D'abord, en surimpression, 2 extraits de films cultes du cinéma français des années 1960. Le Corneau, tourné en 1964 par Gérard Houry, avec Bourville, le Corneau, et Louis de Funès qui le prend vraiment pour un Corneau. Mais dans l'extrait qui nous intéresse, il est épaté par Bourville, parce qu'il croit à tort que ce dernier a séduit une charmante Italienne en moins de temps qu'il faut pour le dire. Comme le ténor Philippe Talbot, alias le Contori dans notre générique, peut nous épater par son chant virtuose.
Alors moi, il m'épate.
Dans Les Tontons Flingueurs, célébrissime film de 1963, avec un chapelet de répliques cultes écrites par Michel Audiard, une scène fameuse montre les principaux protagonistes en train de déguster une eau-de-vie clandestine et manifestement très brutale. Et comme il nous arrive ici de nous demander pourquoi et comment certaines musiques nous ravissent, nous enthousiasment, Jean Lefebvre, un des frères Volfoni, tente d'analyser cet alcool brutal. Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave,
hein ? Si, il y en a aussi.
Et enfin, il y a la musique. C'est un extrait du 2e acte de l'opéra Le Contori de Rossini, juste après le trio d'amour et d'espérance « Je sens battre mon cœur ».
D'amour et d'espérance, je sens battre mon cœur. Je sens battre mon cœur. La nuit et le silence.
Généralement peu amène avec Rossini, qualifia ce trio de sublime et de chef-d'œuvre absolu du compositeur. À la faveur de la nuit, le Contori, alias Philippe Talbot, qui tente de se faire passer pour Sœur Colette, son page isolier, rôle travesti tenu de manière superlative par Gaël Arquez, et la comtesse Adèle, incomparable Julie Fuchs, sont tous les trois réunis dans le même lit. Quelle aventure ! Et tout d'un coup, ces ébats contraires au canon de la morale bourgeoise sont interrompus par une fanfare déclenchée par Louis Langrée et l'orchestre des Champs-Élysées depuis la fosse de la salle Favart. Le comte de Formoutier, frère de la comtesse, est de retour des croisades. Stupeur ! J'entends d'ici le bruit des armes, le clairon vient de retentir.
Thank you.
Bonne année à toutes et à tous. Nous savons tout désormais sur ce générique.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
L'ouverture d'Acanthe et ses fils, pastorale héroïque composée fin 1751 par Jean-Philippe Rameau à l'occasion de la naissance du premier fils du dauphin, paraît tout à fait de circonstance. Voilà le programme de ce qui est presque avant l'heure un poème symphonique. Nous y entendrons d'abord les vœux de la nation, puis un second épisode où sur 5 mesures, Rameau fait résonner les basses et tonner un canon, suit un feu d'artifice avec coups de canon, de rechef, explosion, fusée volante, illumination, et enfin réjouissance des fanfares. On entend là pour la première fois dans l'orchestre français des clarinettes, instrument qui était alors tout à fait d'avant-garde. Après tant d'éblouissements et de délicieux tumultes, nous prendrons la correspondance de 15h21 vers d'autres fanfares. la correspondance de 15h21. Prenons la correspondance de 15h21 et aujourd'hui, en ce début d'année avec François Sureau, la correspondance nous conduit en fanfare à Paris, le Paris du 19e siècle, la fin du Second Empire et de la Commune. Début d'année, c'est le moment de faire des vœux, souvent très convenus.
En fait, il y a deux choses quand même dans les cérémonies de vœux. Il y a une partie qui est quand même affligeante, c'est-à-dire c'est celle qui vous conduit dans tous les ascenseurs de tous les endroits où on travaille à se voir infliger des vœux passablement superstitieux auxquels on ne croit qu'à moitié, santé, prospérité, bonheur, qui rappellent un peu les choses équivoques des voyantes. Il y a autre chose qui est quand même assez touchant dans les vœux, c'est au fond une certaine manière libre, généreuse et au fond optimiste de laisser aller à la rivière l'année qui vient de s'écouler, avec ses drames, avec ses tourments, eh bien on la laisse passer. Quand on se souhaite une année meilleure, ça veut dire qu'on souhaite que l'année précédente sombre dans l'oubli. Et je trouve ça assez intelligent, ce mode d'amnésie collective.
On peut peut-être se souhaiter de ne pas avoir de conflit tout de même.
Ça, et par exemple,
c'est la superstition, et c'est important.
Absolument, on peut se souhaiter de ne pas avoir de conflit, en tout cas de ne pas avoir de conflit inutile. Car il y a des conflits, malgré tout, qui sont des conflits utiles, qui servent le progrès, qui servent l'avancement de la civilisation. On peut se souhaiter de n'avoir pas de conflits inutiles, on peut se souhaiter de n'avoir pas de drames inutiles, on peut se souhaiter de ne pas être exposé à l'arbitraire des choses et de la providence, si je puis dire.
Et nous pensons aux veuves de colonel, par définition, à ce moment-là.
Et nous pensons aux veuves de colonel, sans manquer de respect aucunement aux véritables veuves de colonel et à tous ceux qui sont liés d'une manière ou d'une autre à des gens qui sont tombés pour la France au cours de l'année écoulée. Ce qui est très frappant dans le petit extrait d'Offenbach qu'on va entendre, c'est d'une certaine manière, très étonnante, de civiliser les drames par la drôlerie. Parce qu'après tout, quand Offenbach écrit, il y a eu Sébastopol, la guerre de Crimée, on est juste avant la guerre de 70, il y a eu des gens qui sont morts, et pourtant, l'esprit de Paris, français léger, dit quelqu'un, consiste à civiliser cette douleur en lui donnant le masque de l'opéra bouffe, ce qui est quand même une caractéristique assez sympathique de notre nation.
Voilà, c'est un extrait du deuxième acte de La Vie parisienne. Tout ça est très très connu, très célèbre. Ce fut un succès triomphal en 1866, puis pendant toute l'exposition universelle de 1867 à Paris sur le Champ de Mars. C'est Gabrielle, la gantière, qui est soi-disant dans la table d'hôte de Raoul de Gardefeu, Madame de Saint-Amarante, veuve d'un colonel. Et nous entendons Mélina Mercouri, qui était devenue au début des années 60 une immense star internationale, grâce notamment au film de Dassin, Never on Sunday, prix d'interprétation à Cannes, Oscar de la meilleure chanson originale, Les Enfants du Pirée. Et puis Mélina Mercouri, qui fut privée de ses droits civiques à la suite du coup d'État fomenté en Grèce par les colonels en 1967 et qui devint une figure emblématique de la résistance grecque à la dictature. Donc, veuve d'un colonel, ça a aussi un sens très spécifique pour Mélina Mercouri.
Je suis veuve d'un colonel qui mourut à la guerre. J'ai chez moi regret éternel, sans casque sous un verre. Maintenant je vis à l'hôtel, mais de telle manière que de là-haut, du haut du ciel, sa demeure dernière. Il Il est content, mon colonel. Il est content, mon colonel. Ou du moins, ou du moins, ou du moins, je l'espère. Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, mon colonel?
Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, mon colonel?
Rataplan, plan, 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 une année en fanfare, mais sans guerre, sans drame.
Une année en fanfare, sans guerre, sans drame, et s'il y a des drames, que nous ayons la possibilité de les transformer, d'en faire de la musique, de la littérature, de la création, de transformer les drames qui nous adviennent.
1870
par exemple. Alors ce qu'on va entendre là est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que 1870, c'est à la fois l'invasion étrangère, le drame, les Prussiens partout, la répression versaillaise, la répression de la Commune, la faim, le froid aussi, parce que ça a été un hiver extrêmement froid. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que malgré tout, l'esprit de la chanson française a transformé ça par des chansons comme celle qu'on va entendre maintenant, la chanson d'Heureux, qui est une chanson à caractère politique, en fait, qui vise à stigmatiser la manière dont les bourgeois se sont accommodés de l'invasion étrangère, mais à le stigmatiser dans une langue parfaite, avec une drôlerie sans après, quelque chose d'absolument irrésistible, et qui hisse au fond la protestation politique au-delà de la douleur de l'événement lui-même. Et c'est peut-être une des formes particulières de notre génie, que cette chanson politique, des Mazarinades jusqu'au chant de la Commune, et après jusqu'au chant antimilitariste de la Première Guerre mondiale, c'est une forme particulière de l'esprit français qui se hisse au-dessus de la douleur du temps.
Fameuse chanson qui est devenue donc une chanson emblématique de la Commune, Paris pour un beefsteak, chanson de Émile Dereux. Et il avait choisi une mélodie qui était très fameuse à l'époque, il est un peu moins aujourd'hui, qui était la mélodie « Te souviens-tu » de 1817, qui évoque de manière poignante les souvenirs d'un ancien officier de la Grande Armée qui se retrouve face à face avec un vétéran qui est dans la misère, un ancien grognard, donc autorisé à mendier son pain et qui lui a sauvé la vie au combat. Donc il y a plusieurs couches d'émotion, si j'ose dire, qui viennent.
Te souviens-tu, disait un capitaine au vétéran qui mendiait son pain, te souviens-tu qu'autrefois dans la plaine, tu détournas un sabre de mon sein.
Après François Sureau, nous allons entendre Armand Mestral.
C'est mieux, c'est mieux.
J'entends les fous parler de résistance, de lutte à mort, de patrie et d'honneur. Mon ventre seul exige une vengeance. Sous le nombril, j'ai descendu mon cœur. Libre manant de rester patriote et de mourir sous les feux ennemis. Moi, j'aime mieux la sauce aux échalotes. Pour un beefsteak, messieurs, rendons Paris. Moi, j'aime mieux la sauce aux échalotes. Pour un beefsteak, messieurs, rendons Paris. Vive la paix, la France est aux enchères. Demain, bourgeois, vous pourrez regoinfler. Bismarck attend au château de Ferrières que dans Paris, Thiers lui dise d'entrer. Favre griffonne, un dernier protocole. Trochu renonce à son plein compris. À l'aube bon, tourne la casserole. Pour un beefsteak, on va rendre Paris. À l'aube bon, tourne la casserole. Pour un beefsteak, on va rendre Paris. Que font à moi l'Alsace et la Lorraine? Dans ces pays, je n'ai ni champ ni bien. Que le Prussien nous les laisse sous les prennes, je m'en bats l'œil, car je n'y perdrai rien. Plus que Strasbourg, ma table m'intéresse. Metz ne vaut pas une aile de perdrix. Et puis tout ça fait bouder ma maîtresse. Pour un beefsteak, messieurs, rendons Paris. Et puis tout ça, fait bouder ma maîtresse. Pour un beefsteak, messieurs, rendons Paris. Allons, c'est dit, bonne, fais toilette. Au salon bleu, remets les rideaux neufs. Et toi, Manon, va battre l'omelette. Grâce aux Prussiens, nous mangerons des œufs. Je veux demain recevoir à ma table trois Bavarois et je veux qu'on soit gris. Vive la paix, la patrie est au diable. Pour un beefsteak, on a rendu Paris. Vive la paix, la patrie est au diable. Pour un beefsteak, on a rendu Paris. Pour un beefsteak, on a rendu Paris.
France Musique, Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou.
Pour achever cette promenade musicale et bien commencer l'année, un peu de poésie d'abord, en l'occurrence un poème extrait de Moire, recueil publié par Pierre-Jean Jouve en 1962, et puis une dernière danse pour la route, une chaconne très animée de Juan Aranés, chanson et danse très célèbre au siècle d'or espagnol et hispano-américain, à la bida, la bidita bona, bida, vamonos a chacona, à la vie, la bonne petite vie, ma vie, allons danser la chaconne. Excellent programme pour cette année nouvelle.
Ô musique, toi mère des voluptés vraies, en toi j'aurai recours à l'âge du tourment pour faire encore entre tes rayons et tes plaies un dernier pas. Pour être en poésie encore, celui qui, possédé par l'image ineffable, en mémoire absorbée par tes plus purs instants, plongé dans l'instrument, dans le baroque énorme qui pleure avec amour sur le gouffre du temps, pense. Et que moi encore je dise le semblant d'un pouvoir aussi divinement.
Fin de cette première émission de l'année, les horoscopes et les magazines pleins de bons conseils, très convenus tout de même, oublient de mentionner l'injonction ou le vœu qui serait le plus utile, le plus opportun. Écoutons, découvrons, partageons toutes les musiques les plus enthousiasmantes. Rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure, avec Clara Schumann, incomparable musicienne qui n'a pas fini de nous enthousiasmer. En ce 2 janvier, la fine équipe avec moi a rassemblé Nelly Portal, Claire Levasseur et rien moins que Laurent Lefrançois. Merci à Coco Bonnier, qui était le truchement très subtil de Pierre-Jean Jouve. Sur la page Mazette, quelle musique du site de France Musique, vous trouverez toute la programmation musicale d'aujourd'hui, la réécoute, le podcast de cette émission et de celles qui l'ont précédée. Excellente semaine, excellente année sur France Musique. Et dans moins d'une minute, premier brut d'accordéon de l'année avec Félicien Bru.
À réécouter sur francemusique.fr.